Nous méditons en ce dimanche une parabole fort connue. Il ne s'agira donc pas pour nous de faire une paraphrase de cette histoire, mais d'en sortir quelques éléments importants. Tout d'abord, le contexte de cette parabole. L'évangile s'est ouvert sur l'effroi des pharisiens et des scribes récriminant contre Jésus sur un point. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Les pharisiens et les scribes sont des juifs extrêmement orthodoxes du point de vue de leur foi et du point de vue de leurs pratiques religieuses, vivent avec un grand nombre de traditions que scrupuleusement ils observent avec cette conviction de l'ancienne alliance. Si véritablement j'obéis à la loi, alors je serai sauvé. Mais si je m'écarte un tant soit peu de la loi, alors l'alliance avec Dieu est rompue et je suis perdu. D'où l'effroi de voir Jésus, qui s'apparente peut-être au Messie par ses œuvres et sa prédication faite avec autorité. Mais comment cet homme peut-il faire ainsi bon accueil aux pécheurs et manger avec eux ? Frères et sœurs, considérons notre assemblée ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur de nous convier à son autel, à sa table, pour se donner à nous dans le pain de vie, alors que nous sommes chacun, comme nous le confions toujours à Notre-Dame, de pauvres pécheurs, d'infatigables pécheurs. Et le Seigneur, malgré cela, nous fait bon accueil. C'est dans cette perspective que le Seigneur va donner trois paraboles. Nous avons entendu la plus longue, celle que l'on appelle communément le fils prodigue, parce que bien sûr nous comprenons qu'il nous figure chacun, nous nous éloignons de Dieu, mais voilà que le bon Dieu, lorsque dans notre cœur sent ce retour sincère vers lui, eh bien n'attend pas que nous venions faire à ses pieds amende honorable, mais s'élance à notre rencontre, à la rencontre du pécheur, se réjouissant de nous retrouver. Cette parabole a plutôt pour personnage principal le père de famille. Le pécheur, nous comprenons qu'il est figuré par ce fils qui demande sa part d'héritage, qui part, qui mène une grande vie de désordre et qui finalement, entrant en lui-même, fait la vérité sur son existence. Il connaît la gêne, il connaît le besoin, il vient de connaître profondément sa faiblesse et le fait qu'il vaut finalement peu de choses. Mais confiant dans l'amour de son père, il décide malgré tout de revenir vers lui. Alors que le fils aîné représente les pharisiens et les scribes, ceux qui observent scrupuleusement la loi et qui finalement ont un cœur fermé à l'amour et à la miséricorde. Ce père qui ne connaît ni le jour ni l'heure où son fils finira enfin par revenir vers lui, le reconnaît de loin. Il est peut-être parti avec sa superbe, fort de son argent, de cet orgueil, de cette vie qu'il va enfin mener, de cette liberté enfin qu'il va pouvoir vivre et goûter. Eh bien voilà que le père voit revenir un homme sans doute bien courbé sur ses fautes, honteux, il n'a apparemment même pas une paire de sandales, et le père non seulement le couvre de baisers dans ce geste d'accueil, mais lui donne aussitôt un anneau. L'anneau, signe de la fidélité, de l'appartenance à sa famille. Mon fils que voilà, par ses œuvres et son péché, était mort. Et saint Luc a bien raison de préciser ainsi dans sa parabole, car le péché a pour conséquence la mort. Voilà pourquoi la mort est entrée dans le monde, et voilà pourquoi le Seigneur Jésus vient nous sauver. Nous sauver du péché, qui a pour conséquence également de nous sauver de la mort. Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu dans le péché, dans le désordre, et voilà qu'il est retrouvé. Et le Seigneur Jésus veut pointer du doigt, pardon, ce qui se tient dans le cœur de Dieu. Quel sentiment se trouve dans le cœur de Dieu? Et nous l'avons entendu, son père l'aperçut, il était encore loin, et fut saisi de compassion. Saisi de compassion, dans le grec, c'est véritablement un sentiment qui vient du plus profond des entrailles, qui a donné le beau mot de miséricorde. Non seulement se trouve dans Dieu, l'amour, il est amour, mais cet amour se manifeste autant dans le respect de la justice, bien sûr, mais aussi dans sa miséricorde. Pour véritablement approfondir ce qui se trouve à la fois dans le cœur de Dieu et ce qui se trouve en notre cœur, j'ai voulu que nous puissions méditer aujourd'hui ce beau poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est docteur de l'Église, vous la connaissez sans doute, c'est une très jeune carmélite qui, à Lisieux, s'est efforcée d'aimer Dieu et d'aimer son prochain dans la vie religieuse. Et habitée par cet amour de Dieu, cette grande sœur du ciel, nous dit bien en sa première strophe, « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. » Et la confiance, c'est le mot de la foi. Je garderai la même foi inébranlable, la même confiance en Dieu, en son amour et en sa miséricorde, car je sais bien que tous ces crimes possibles, qui sont une multitude d'offenses, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. L'image du Sacré-Cœur de Jésus, telle qu'il a voulu se manifester à nous, manifeste un cœur duquel jaillit ces flammes vives, ce feu ardent. Dimanche dernier, dans la première épître, avec Moïse, nous avons contemplé Dieu dont la voix se faisait entendre dans ce buisson qui brûle sans se consumer. L'amour de Dieu brûle pour nous sans jamais se consumer. Et Sainte Thérèse de manifester que ce Dieu d'amour est un Dieu de tendresse qui ne la quitte ni la nuit ni le jour. Dieu demeure toujours à nos côtés. Nous pouvons nous perdre dans le péché, dans le désordre. Nous pouvons en cela nous éloigner de Dieu. Mais Dieu ne s'éloigne pas pour autant de nous. Saint Luc l'a dit dans l'ouverture de cet évangile. Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Alors il ne fait pas simplement bon accueil aux pécheurs en disant « Continue ton péché, mon ami ». Nous savons qu'en relevant la pécheresse, il lui dit « Va, je ne te condamne pas, mais maintenant ne pêche plus ». Et cette pécheresse pardonnée, Sainte Marie-Madeleine, nous figure tout autant chacun que le Fils prodigue. Voilà que le Seigneur nous relève de nos fautes lorsque dans nos cœurs se trouve ce désir sincère de revenir vers lui. Et pour revenir vers lui, lorsque nous avons ouvert ce temps du carême, je vous l'avais précisé, il y a dans cet évangile cette belle expression du Fils prodigue, il entre en lui-même. Et en ce temps du carême, nous avons à entrer en nous-mêmes pour faire la vérité sur notre vie, sur notre existence, mais aussi pour manifester à Dieu, comme l'affirme Sainte Thérèse, eh bien que ce cœur de Dieu est un cœur tout brûlant de tendresse. Et Sainte Thérèse de manifester que cet amour de Dieu va bien loin, puisque Dieu qui est éternel entre dans le mystère du temps pour venir nous sauver. Elle manifeste tout autant que c'est sans aucun retour que le bon Dieu vient à notre rencontre. Il vient nous sauver. Elle manifeste également que ce Dieu qui prend sa nature humaine tout en demeurant Dieu, eh bien, devient alors notre frère, et puisqu'il est devenu homme, voilà qu'il souffre. Il souffre par amour pour nous tous les mystères de la passion et offre sa vie pour nous. Nous sommes habitués à ce langage car nous savons et nous le répétons que le Seigneur a offert sa vie sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés. Mais l'envers de ce sacrifice, c'est l'immense amour que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Ce dimanche du carême est celui de la joie. Le violet de la pénitence est estompé par le rose. Une joie qui n'est pas à la manière du monde, une joie tout d'un coup éclatante qui viendrait de l'extérieur manifester la louange légitime que nous devons à Dieu, notre Créateur. Non, il s'agit d'une joie tout intérieure. La joie qui habite le Fils prodigue, qui retrouve sa dignité par la miséricorde de son Père. C'est dire cet amour de Dieu qui ne nous quitte ni le jour ni la nuit, c'est dire à quel point chacun d'entre nous avons du prix aux yeux de Dieu pour que Dieu quitte la hauteur du ciel pour venir chacun nous sauver, pour venir me sauver. Voilà ce Dieu d'amour, ce Dieu de tendresse qui va alors prendre la croix sans ouvrir la bouche pour toutes les fois où on l'ouvre trop, qui va offrir toutes ses souffrances pour tous nos chemins de croix, qui va offrir sa vie humaine pour nous accompagner, nous aussi, dans le mystère de la mort, qui est le mystère pour nous de Pâques. C'est avec le Christ, la source de l'amour qui vient se manifester à nous, que nous passons de la mort à la vie. Dieu nous fait donc bon accueil à nous pécheurs. Nous aurons bien sûr, en ce temps du carême, à entrer en nous-mêmes, à faire la lumière de nos péchés par un examen de conscience. Dimanche prochain, vous seront distribués des examens de conscience pour, comme le Fils prodigue, entrer en nous-mêmes à la lumière des 10 commandements et préparer, mes chers frères et sœurs, cette confession pascale. Nous avons à faire la vérité sur notre vie et alors à découvrir l'immense amour et tendresse de ce Dieu qui non seulement pardonne nos péchés, mais nous accorde alors une grâce de persévérance pour avancer à sa rencontre et pour goûter et voir combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur nous aime. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, la Vierge Immaculée sans péché, qui elle aussi fait bon accueil aux pécheurs à l'image de son Fils, elle est venue nous dire à Lourdes qu'il fallait prier pour nous, pécheurs, qu'il fallait opérer cette conversion par des œuvres de pénitence et pour cela aller à la source de l'amour qui n'est autre que ce cœur brûlant pour nous. Oui, comme l'affirme sainte Thérèse, « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. »